R22 tout le monde.
Antenne vie.
Bien, bonjour. Je m'appelle Jérémy Gagnon. Je suis anthropologue, sociologue, intermittent de la recherche, c'est-à-dire précaire. Et on m'a invité pour venir parler de quelque chose qui, pour moi, a constitué à la fois un objet de recherche ou un tract de thèse, qui est là, qui m'a accompagné dans le train, et qui est en fait aussi devenu une pratique au même moment, en fait, au moment où c'est devenu un objet de recherche, c'est devenu une pratique personnelle. Fin. Et donc il y a une pratique de danse qui s'appelle la danse contact improvisation. Et l'invitation qui m'avait été faite, c'était de venir pour parler du contact improvisation et voir comment est-ce que peut-être ça résonnait avec la thématique du commun, qui est une thématique un peu au long cours pour vous, si j'ai bien compris. Et bon. Et alors, je vais commencer par faire ce que j'ai appris dans le contact improvisation et en improvisation de manière générale. C'est j'ai commencé par déballer mon sac, qui correspond à peu près à ce qui s'est passé pour moi aujourd'hui. Juste pour vous dire, en fait, j'avais préparé quelque chose que j'ai eu besoin même de répéter plus ou moins hier soir chez moi pour me rassurer. Voilà, ça m'a rassuré. Mais en même temps, je n'étais pas complètement satisfait non plus. Enfin, je ne sais pas, j'ai eu d'autres envies dans le train. En tombant sur un article que j'ai lu dans le train du Monde. Bon, bref. Et je me suis dit que j'allais m'offrir l'occasion peut-être de faire une conférence sur le contact improvisation, mais peut-être une conférence de contact improvisation, au sens où je vais essayer d'être au contact de ce qui est vivant pour moi là aujourd'hui. Donc c'est un peu tout ça, cet article-là, mais aussi je suis arrivé une heure et demie plus tôt et je suis tombé dans une belle librairie de Nancy sur un livre de Philip Glass. Et en l'ouvrant par hasard, je tombe sur le nom de Steve Paxton, dont je vais vous parler, qui est le fondateur du contact improvisation, complètement par hasard. Donc, je n'ai pas pu faire autre chose qu'acheter le livre. Et je pense que je vous lirai un petit extrait du livre en question. Donc, comment est-ce que je peux être au contact de ce qui m'anime là? Et puis, improvisation, parce que du coup, je vais jongler entre des organisations un peu différentes dans ma tête et qui... Tout ça pour dire que ce ne sera pas forcément tout d'un seul tenant, d'une seule ligne, qui sera merveilleusement exposée. Mais j'ai lu aussi là-dedans aujourd'hui qu'on pouvait compter sur le fait qu'on pouvait mutualiser nos compétences et nos incompétences, donc j'y vais joyeusement. Et la seule chose juste que j'avais besoin de voir avec vous, c'est que on n'a pas, je ne sais pas trop le cadre en fait, combien de temps j'ai devant moi. Oui, à un moment donné, vous aurez froid.
Une heure.
Peut-être tu peux partir pour une heure. Et puis à un moment donné, si on a trop froid, on peut aussi juste se dire qu'on a trop froid, on se lève et on se secoue pendant 5 minutes, puis on reprend, on met 5 minutes de turbine, on va tous se coltiner quand la turbine est... C'est quelque chose de possible aussi. Voilà. Et la dernière chose, c'est qu'il faudra faire aussi avec ma petite voix pincée de mal de gorge, voilà, dans cet espace... chaleureux à défaut d'être encore chaud. Voilà. Bon, donc je commence. Alors plutôt que de commencer directement à vous parler du contact improvisation, je vais essayer d'y arriver, mais par des chemins un peu détournés, en partant de considérations un peu plus larges. Alors, bon, qui m'occupe en ce moment dans un petit collectif où on réfléchit autour d'un livre d'Anat Singh qui sera bientôt traduit en français et qui dont le sous-titre est « Les possibilités de vie dans les ruines du capitalisme ». Donc je suis pas mal avec la question du capitalisme. Et une des choses, je pense, qu'on a tous acté un peu dans nos vies, c'est que le capitalisme, c'est pas seulement un système économique, c'est pas une chose, c'est pas une entité, mais que le capitalisme, c'est aussi une manière d'être affecté. Et qu'à ce titre-là, il y a tout un ensemble de travaux et d'enquêtes, et puis on pourrait les multiplier sur les affects du capitalisme. Toutes des affects qui peuvent être tout à fait contradictoires, qui, en fonction de là où on se situe dans la société aussi, viennent nous toucher et produisent des choses tout à fait différentes, comme par exemple du dépit et de la résignation d'un côté, et de l'autre côté, au contraire, ce sera une espèce d'euphorie et de totale indifférence à tout ce qui peut se passer en dehors de son petit précaré ou de la fluctuation de son petit pécule. Et donc, le capitalisme comme manière d'être affecté, on sait aussi, on vit avec ce moment du néolibéralisme qui a maintenant 30-40 ans d'histoire derrière nous. Et que le néolibéralisme, c'est quoi? C'est le moment où on étend la logique des logiques marchandes, des logiques de l'économie capitaliste, comme le profit, la rentabilité, la compétitivité, etc., à des sphères non marchandes et plus particulièrement jusqu'aux sphères les plus intimes de l'existence. Et qu'on est tous en prise avec cette situation-là, je crois. Qu'on attire aussi peut-être certaines leçons qui est que la position du grand refus, elle est compliquée à tenir et qu'on est tous aux prises avec des situations un peu de péricapitalisme, c'est-à-dire qu'on a un pied dedans, un pied dehors et qu'on est pris dans des contradictions qui font aussi... on peut tenir à ces contradictions-là aussi, je crois. Et j'aimerais juste rappeler une chose, que le capitalisme a toujours procédé comme ça, comme quand je parle de l'extension là, à savoir par une logique de prédation. Vous qui travaillez sur les communs, vous savez comment il a d'abord, au moment de la révolution industrielle du 19e, été attaqué les terres paysannes, donc les fameux commons. Ensuite, comment est-ce qu'une fois que ça avait été démembré, comment est-ce qu'il s'est attaqué à ce qu'on appelait alors le tiers-monde, donc comme un nouvel espace de déploiement, de prédation. Comment est-ce qu'aujourd'hui il s'attaque à des biens comme l'eau, l'air, l'ADN, enfin tous les codes génétiques de certaines plantes, le génome humain et compagnie. Et que le capitalisme a toujours procédé par violence et dépossession. C'est son mode de fonctionnement. Et j'en arrive à ce que je voulais vous dire, qui était que les relations humaines et le rapport de soi à soi n'échappe pas à ces logiques-là, à ces processus de prédation, de violence, de dépossession. Et Foucault, par exemple, c'est un peu l'objet du travail de Foucault à la fin de sa vie, dans son histoire de la sexualité. Et du coup, on se retrouve dans cette situation où quand même, à la fois on acte, à la fois on subit, à la fois on essaye d'inventer des choses, mais où le néolibéralisme, où tous ces affects que l'on reçoit du capitalisme ont aussi transformé les relations humaines, les rapports de soi à soi, en des produits, plus ou moins en voie de standardisation. Et que comment est-ce qu'on est OK avec ça? Comment est-ce qu'on gère avec les espèces de standards, les formats, qui nous sont proposés? Et partout où le capitalisme passe, il laisse derrière lui un champ de ruines. Je vous parlais du livre d'Anna Tsing, là, un champ de ruines, et on en est du coup un peu aujourd'hui à ça. Est-ce qu'il est possible de vivre? Quelles sont les possibilités de vie dans les ruines du capitalisme? Une autre manière de regarder les affects du capitalisme consiste aussi à se pencher... Là, je pense aux travaux d'un groupe assez informel qui s'appelle « The Institute for Precarious Consciousness », donc l'Institut pour les consciences précaires, qui est basé en Angleterre, et qui s'est penché sur les affects du capitalisme, et ils ont distingué trois âges, en disant qu'il y a comme trois époques au capitalisme, la première modernité, qui est en gros la révolution industrielle du 19e, et la deuxième, qui est l'après-Seconde Guerre mondiale, et puis le 21e siècle, là où on en est aujourd'hui. Et ils disent à chaque fois, le capitalisme a produit un affect dominant. Pour la première modernité, c'était la misère. Et la prolétarisation, la dépossession des moyens de subsistance, de travail chez ceux qui, à qui on avait justement pris tous leurs moyens de subsistance dans les champs, dans les commons, et qui se retrouvaient à devoir s'exiler en ville, aller bosser dans les usines et compagnie. Donc l'affect dominant étant la misère. Mais, contrepartie, les mouvements ouvriers se créent en réaction à ça. Il y a tout un ensemble d'actions, de pratiques, de réflexions, de théories qui se font, que ce soit du côté du marxisme, de l'anarchisme. Et une des premières, c'est un peu à ce moment-là que ces mouvements ouvriers portent une idée qui est que cette condition que l'on vit de la misère, elle n'a rien de personnel. Cette condition de la misère, c'est un état commun. Et qu'il y a un système qui le génère, qui l'encadre, qui le produit, qui l'organise. Misère. Deuxième modernité, l'affect dominant serait l'ennui. Et là, on connaît aussi relativement bien, je crois, enfin, il y a peut-être l'image un peu de l'Amérique pavillonnaire, enfin, des États-Unis, pardon, pavillonnaire, de l'après-Seconde Guerre mondiale, dans une espèce de pays de papa autoritaire assez serein et assez sûr de leur propre autorité, avec le rêve américain un peu en toile de fond. Et face à cet ennui-là, très vite, dès la fin des années 50, et puis ça va durer toutes les années 60-70, ça va être la contre-culture, la libération sexuelle, le féminisme deuxième vague, les drogues, le rock'n'roll, enfin, tout ce qu'on connaît de la contre-culture. Et donc il y a un mouvement social, populaire, qui s'organise contre cet affect-là. Et l'Institute for Precarious Consciousness nous dit quel est l'affect dominant aujourd'hui. Et cet affect dominant, c'est l'angoisse. We are all anxious. Nous sommes tous anxieux, je ne suis pas sûr qu'un anxious soit angoissé, mais disons anxieux au moins, c'est peut-être un degré en dessous, on est tous anxieux. Et pour avoir traversé plusieurs gares aujourd'hui, il suffit de voir comment les gares, ces espaces publics-là, à quel point il y a une espèce d'anxiété latente et aussi d'anxiété un peu organisée. À quel point l'espace public est en train de s'organiser autour de cette anxiété, de la peur, de l'administration de la peur. Dans le monde d'aujourd'hui, il y avait une tribune de Ostermayer, le metteur en scène berlinois, qui, je crois qu'il est toujours à la tête de la Schönbühne, où il est plus, mais il a été pendant longtemps. Enfin, et il avait cette phrase très juste, il écrit un papier sur la France, et puis il dit « L'espace public s'amenuise, les zones de sécurité prospèrent. » Et je crois que c'est aussi je ne sais pas là si c'est un affect, mais c'est vraiment une des logiques de ce moment dans lequel on vit, c'est on vit une espèce de trouble, où on vit une privatisation de l'espace public, et à l'inverse, une injonction à la publicisation des espaces privés. Et il y a comme ça des espèces de raccourcis, de court-circuits qui se font. Et par rapport à cette angoisse ou cette anxiété, la question qui est, c'est aujourd'hui, est-ce qu'on a un mouvement global, un mouvement populaire, un mouvement... un courant artistique, esthétique, ou plusieurs, ou une avant-garde, je ne sais pas, des théoriciens, qui nous aident à prendre en charge, à porter une critique commune de cette angoisse collective. Et leur point de départ, c'est de dire non, ça n'existe pas encore, et c'est justement ça qu'il faut créer. Alors pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Je vous dis tout ça parce que j'en arrive au contact improvisation. Le contact improvisation, il est né à peu près au début du néolibéralisme. Il est né en 1972, plutôt un tout petit peu avant. Et c'est plutôt une pratique qu'on pourrait penser comme ayant été conçue pour lutter contre l'affect dominant qui était l'ennui. Mais une des questions qui m'intéresse si je me situe dans une visée un peu politique, c'est est-ce que cette pratique-là, éventuellement, elle peut avoir quelque chose à nous apprendre ou à mettre en pratique pour lutter contre pour cette anxiété collective là qui nous... On aura l'occasion de le voir demain, mais du coup, je le nomme juste comme ça, et puis peut-être qu'on le retrouvera à la fin de la conférence, mais le contact improvisation, c'est quelque chose qui s'essaye ou qui va expérimenter sur tout un ensemble de points de la relation à l'autre, qui pourrait participer justement de quelque chose qui fasse support par rapport à cette anxiété collective. Et je pense notamment à comment est-ce qu'on va être à l'écoute de l'autre, comment est-ce que dans l'instant on collabore ensemble, et comment est-ce qu'on négocie la collaboration sans en passer par les mots, par exemple. Comment est-ce qu'on fait attention ensemble? La question de l'attention est une question assez centrale en contact improvisation. Et à quoi est-ce qu'on fait attention? Est-ce qu'on est capable de déterminer ensemble ce à quoi on a envie de faire attention en dansant? Comment est-ce qu'on peut accepter de ne pas savoir, de se laisser aller par l'incertitude d'une improvisation, dans l'improvisation d'un rapport entre plusieurs personnes, dans la danse et dans l'instant, dans des situations potentiellement un peu risquées? On verra tout à l'heure avec la vidéo. Bon, voilà. Je dirais que le contact improvisation, je ne vais pas du tout le présenter comme étant un espace de résistance à tout prix au capitalisme, au néolibéralisme, à tout ce qui nous opprime, nous domine et compagnie. En revanche, j'insisterai sur le fait que c'est un espace où il y a tout un ensemble de dimensions du jeu social qui est mis à l'expérimentation et à minima, je dirais, qui est mis en jeu. C'est-à-dire qu'il y a du jeu qui va être mis, on va mettre en jeu tout un ensemble de choses qui viennent façonner les relations entre les personnes. Alors, avant de vous parler encore, à proprement parler du contact improvisation, j'avais envie de faire de poser deux problèmes, parce que c'est aussi des problèmes qui me concernent, moi, de qui je suis et d'où je viens, et de mon parcours en sciences sociales. Et ces problèmes, je vais essayer de les traverser très brièvement pour pas que ça prenne trop de place, mais je vais les nommer. Ce sera le problème, ou plutôt relatif au motif de la coupure, au motif de l'interstice, des écarts, des failles, dans notre métaphysique, et surtout dans notre manière, du coup, dont notre métaphysique pense les rapports entre le corps et l'esprit, dont elle pense les rapports entre les individus, et les écarts, les coupures, les interstices, dans les rapports entre moi et le monde, la personne et le monde. Donc, problème, le motif de la coupure. Et le deuxième problème, ce sera celui de la problème de la standardisation de la sphère relationnelle. Alors, pourquoi est-ce que je pose le premier problème? C'est parce que on vit dans un monde où on est les héritiers d'un monde, et peut-être qu'on vit déjà plus tout à fait dans ce monde-là. Ça, c'est aussi quelque chose qui serait intéressant de préciser, mais en tout cas, on est les héritiers d'un monde de penseurs qui, notamment beaucoup en philosophie et en psychologie, ont postulé tout un ensemble de choses sur comment fonctionnait le corps et l'esprit, etc., le mind, la conscience, et qu'on pourrait résumer par cette idée de l'insularité des consciences. L'insularité des consciences, c'est qu'en fait, mon expérience, elle sera irrémédiablement étanche à votre expérience, et que vaguement pourra avoir des moyens de communiquer par le langage, et on s'y prendra toujours relativement mal, on sera toujours plus ou moins adroit, on n'a qu'à voir toutes les espèces de quiproquos qu'on est capable de générer en une journée par mail ou par voilà. Et que tout ce qui relève de mon expérience, donc de ce qu'on pourrait appeler l'intériorité, existe sur un mode qui est un mode intérieur et privé. C'est privé, il n'y a pas d'accès, très peu. Il n'y a de l'accès que de ce que j'accepte de rendre public. Bon, il y a des, il y a, je vais vous lire trois citations que je tire chez des gens qui, en plus, auraient pu paraître être des alliés, qui sont plutôt des, notamment un philosophe que j'aime beaucoup d'ordinaire, mais par exemple William James, qui est un philosophe, et, enfin, d'abord psychologue, puis philosophe américain, dit « Le fossé qui sépare deux esprits est peut-être la plus grande faille qui soit dans la nature. » La deuxième est de Henri Poincaré, à la fois physicien, quantique, philosophe, mathématicien et compagnie. Les sensations d'autrui sont pour nous un monde éternellement fermé. Oui, parce que dès lors qu'on se rapporte à cette question du corps et de l'esprit et de l'insularité des consciences, la question des sensations arrive au galop. Et puis la troisième, et c'est celle-ci, à partir de celle-ci que j'aimerais tirer quelque chose aussi, parce qu'elle résonne avec le titre de votre exposition, que j'emprunte à, pour le coup, cette fois, un philosophe qui est encore vivant, qui le sera peut-être plus pour très longtemps d'ailleurs, qui est Jacques Bouvresse et qui commande Wittgenstein et qui dit « Entre deux douleurs parfaitement identiques, mais éprouvées par deux personnes différentes, donc entre deux douleurs, deux sensations parfaitement identiques, mais éprouvées par deux personnes différentes, il y aura toujours au moins une différence de propriétaire. » Et c'est cette... j'avais envie de jouer la surprise et l'étonnement sur qu'est-ce que la notion de propriété vient faire ici, dès lors qu'on se rapporte à la sensation, une sensation potentiellement conjointe ou commune, en plus. Bon, voilà. Donc c'est... Et aussi, si on suit la philosophe Donna Haraway qui dit les mots qu'on utilise ne sont jamais innocents, les mots qu'on utilise pour raconter une histoire ne sont pas innocents. Alors, quand on utilise le mot propriétaire ici, qu'est-ce que l'emploi de ce mot-là, qu'est-ce que l'image qu'il convoque, empêche comme autre notion de se manifester, comme autre image de se manifester et comme autre expérience de se manifester. Et c'est une des choses, je crois, que le contact impro permet de penser. Donc ça, c'était le premier problème. Le deuxième problème, pour faire vite, j'ai plus ou moins une formation de sociologue, et quand on est sociologue, on nous dit alors la sociologie, elle s'intéresse à la relation, à l'interaction entre les gens. C'est-à-dire, on ne s'intéresse pas aux individus, on s'intéresse, enfin, en tout cas, il y a un courant, l'interactionnisme, qui s'intéresse. Son objet d'étude, c'est les interactions, donc la relation. Et la figure de proue de ce mouvement-là, c'est quelqu'un qui s'appelle Erving Goffman, qui est d'ailleurs une drôle de personne, et qui décrit. Donc, il a passé sa vie à essayer de décrire tous les cadres de l'interaction, toutes les mises en scène et toutes les stratégies que l'on met en œuvre culturellement dans notre culture pour que, quand une interaction se présente, on soit à la hauteur. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que, du coup, dans cette forme de sociologie, l'interaction, elle est toujours plus ou moins entrevue avec une espèce d'idée en tête qui serait qu'elle serait réglée par une logique de gestion. C'est-à-dire toutes les stratégies qu'on met en place pour garder la face, donc logique de gestion, de rationalité aussi. On rationalise qu'est-ce qui est en jeu, qu'est-ce qui est... Et où ce qui serait en jeu dans ces interactions, ce serait la capacité de pouvoir s'assurer qu'on partage une définition pertinente de ce qui est en jeu dans la situation. Et donc, pour le dire de manière plus triviale, qu'on puisse s'assurer qu'on est d'accord sur ce qu'il en est de ce qui est entre nous. Bon, mais il y a un anthropologue que j'aime bien qui s'appelle Albert Piette qui dit « Oui, mais en fait, est-ce que ça se passe... » Enfin, les interactions où on va être face à face en train de rationaliser ce qui se passe, enfin, ça arrive combien de fois? Oui, certes, je vous ai rencontré tout à l'heure, j'ai porté attention à vous, à découvrir le lieu, j'étais orienté, focalisé sur ce que vous me disiez, mais il est très étonnant de voir à quel point les sociologues ont, jusqu'à assez récemment, eu très très peu de choses à nous dire sur toutes les situations qui ne sont pas vraiment des situations d'interaction, mais qui sont des situations de relation, qu'on pourrait dire plutôt des situations de coprésence. C'est-à-dire toutes les situations où je suis en présence de quelqu'un, mais où on est sur notre présence, elle se fait sur un mode complètement relâché. Penser à, je sais pas, au plaisir, à la joie qu'on peut avoir de partager un moment avec quelqu'un qu'on aime bien dans un appartement, être avachi dans un canapé, à ne rien faire ensemble, et pourtant le fait qu'on soit l'un à côté de l'autre, d'une certaine manière, à un certain endroit, compte. Alors ça rentre absolument pas dans le cadre de l'interaction. Donc, est-ce que on peut venir aussi comme étirer ces cadres des interactions humaines pour éveiller de la curiosité sur toutes ces situations de coprésence où la nature de ce qui est en jeu entre nous pourrait être dit, pourrait se décrire par la minimalité, l'oblicité ou la latéralité, une forme de lien qui sont autant de choses là aussi qui se cultivent beaucoup en contact improvisation. Je ne sais pas si vous connaissez les films de Wu Xiaoxian, le cinéaste chinois. C'est quelqu'un, il est d'ailleurs, je ne sais plus si c'est hongkongais ou chinois, mais bref. C'est quelqu'un qui pour moi est très fort là-dedans, le cinéma asiatique de manière générale, mais il est très fort pour montrer des situations relâchées. Et je pense notamment au film qu'il a fait en France qui s'appelle Le Ballon Rouge avec Juliette Binoche, où il y a des situations très belles d'intérieur, où elle est là avec son fils, et il filme des situations de coprésence qui ne sont pas des interactions. Là, comment est-ce qu'on cultive ces moments-là ? À l'inverse, la sociologie, elle est aussi un tout petit peu paniquée dès lors qu'il y a des formes d'interaction qui ont l'air d'emprunter des voies tout à fait aberrantes. Il y a une branche de la sociologie qui s'appelle la proxémie, qui a modélisé des espèces en cercle concentrique comme ça, des sphères qui déterminent l'espace intime. Ensuite, donc j'ai à peu près 45 cm d'espace intime. Et entre 45 cm et 1,2 m, ça va être l'espace personnel. Et puis après celui-ci, il y aura l'espace social. Et puis après, il y aura l'espace public. Et l'espace public, pour vous dire, dans nos sociétés, c'est entre 3,6 m et 7,6 m. Et au-delà, ça doit être... en dehors de la galaxie, bon voilà, c'est pas ce qui. Bon, mais qu'est-ce qui se passe quand, et parce que c'est ce qui va se passer dans le contact improvisation, on se retrouve avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui est en train de nous monter dessus, de nous rouler dessus, et que des parties de nos corps qu'on réserve peut-être plutôt d'ordinaire à des gens avec qui on est plutôt intime sont en contact un peu immédiatement. Et alors la sociologie, elle est paniquée, c'est la panique parce que c'est une situation qu'elle ne rencontrait pas, elle n'a pas eu. Donc, tout ça pour vous dire que moi, la rencontre avec le contact improvisation, ça a été un bouleversement à plein d'endroits, mais y compris aussi dans ce que je jouais en termes de recherche en sciences sociales, c'était comment est-ce que je peux me laisser inviter et entraîner par cette pratique dans tous les débordements qu'elle entraîne et les espèces de reconfiguration, l'expérimentation qu'elle met en jeu dans... quelque chose qui semblait être le précaré du sociologue ou de l'anthropologue, qui est les relations intérieures. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que dans mon parcours, j'ai rencontré notamment l'ethnopsychiatrie. L'ethnopsychiatrie, c'est, vous voyez à peu près, c'est à la fois une discipline, mais c'est aussi un champ de pratique thérapeutique qui en gros consiste à accueillir les formes thérapeutiques d'autres cultures, et notamment chez nous, comment est-ce qu'on soigne des gens qui viennent d'Afrique, qui viennent de je ne sais pas quel pays, et pour qui, a priori, par exemple, sur le domaine psychique, la psychanalyse n'est peut-être pas complètement adéquate, parce qu'il y a quand même un tout petit problème culturel maintenant. Bon. Et l'ethnopsychiatrie, à travers quelqu'un notamment qui s'appelle Toby Nathan, elle a un postulat de départ qui est très intéressant, qui dit que les théories que l'on se donne de la maladie vont venir formater jusqu'aux expériences que les malades feront de la maladie. C'est tout à fait différent de vivre une dépression quand on se dit que c'est du papa-maman pas résolu, que quand on se dit que c'est un déficit d'hormones ou de connecteurs, de neurotransmetteurs sans dire qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre, mais la manière de vivre la maladie est complètement différente en fonction. Et ben, je crois qu'on peut transposer ça aussi à la fois pour les sociologues, mais en fait pour nous tous, les théories qui préexistent et qui existent concernant la relation, mais concernant aussi les rapports entre le corps et l'esprit, vont venir comme formater, vont produire tout un ensemble de petites législations sur ce qu'il est possible ou pas possible dans les relations interhumaines, est-ce qu'on se permet, est-ce qu'on ne se permet pas, ou aussi dans la manière dont on vit et expérimente nos propres rapports entre le corps et l'esprit, par exemple. Bon, je vais vous parler du contact improvisation, cette fois-ci. Ça va, vous n'avez pas trop froid ? Le contact, je vais dire deux mots du contexte quand même, parce que aussi, mais en supposant que peut-être c'est quelque chose que vous connaissez déjà, le contexte école d'art, et moi c'est un contexte qui m'est assez étranger. La danse contact improvisation est une pratique qui naît, donc je l'ai dit, en 1972, et elle naît elle naît à New York. Enfin, elle naît d'abord, elle va s'épanouir à New York, et elle s'insère dans tout un mouvement en danse qu'on nomme la postmodern dance. C'est un mouvement qui est branché sur toute la contre-culture américaine des années 60-70, avec ce qu'on entend derrière d'anti-autoritarisme, de communautarisme, des revendications autour de l'égalité, la liberté, pacifisme, etc. Et puis aussi des formes d'expérimentation sur des états modifiés de conscience. C'est un moment aussi que vous n'ignorez pas de bouillonnement absolu à New York, notamment à Greenwich Village. C'est le moment de l'expressionnisme abstrait, il y a tout un mouvement néo-dada. Marcel Duchamp est très présent à ce moment-là à New York, que ce soit dans la musique de John Cage, dans la peinture de Rauschenberg, et chez donc celui qui crée un peu qui propose le contact improvisation, qui s'appelle Steve Paxton, qu'on voit là et qu'on va voir tout à l'heure sur la ligne. Il y a deux groupes un peu phares de cette postmodern dance. Ça va être la Judson Church de 61 à 64, qui réunit un ensemble de chorégraphes avec derrière Yvonne Rainer, Lucinda Child, Deborah Hay, Steve Paxton et d'autres que j'oublie pour l'instant. Et puis ensuite, il y aura le Grand Union. Ces deux groupes-là sont vraiment ceux avec vraiment Yvonne Rainer en chef de file qui tape du poing sur la table avec vraiment une esthétique affirmée qui va poser les jalons de cette esthétique-là de la postmodern dance. Et je vais la résumer en citant Jacques Rancière, qui ne parle pas du tout de ça, mais qui en fait, je trouve, résume très bien la lignée de la postmodern dance. C'était: rompre avec les logiques causales des intrigues. Rompre avec la logique causale des intrigues, ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de dramaturgie, il n'y a pas de rôle, il y a toute une espèce de mythologie de la neutralité des interprètes sur scène, des performeurs. On réduit aussi l'expressivité du geste à l'exécution de tâches, et les tâches les plus quotidiennes, ça peut être marcher, courir, se jeter les uns contre les autres, voilà. Donc, briser les logiques narratives, il disait. Donc, briser les logiques narratives. Et deuxièmement, rompre la sémiologie de l'expression des émotions. Steve Paxton, c'est quelqu'un qui performait assez souvent. Il se maquillait en blanc. Et il performait avec ce masque-là, qui est aussi pour lui une manière de convoquer Buster Keaton, je pense. Avec quand même toute une forme de fantaisie, mais le masque est... donc il y a vraiment cette idée de ne pas être sur la mise en scène de personnages, pas être dans l'expressivité de mouvement, mais d'expérimenter sur l'interaction, de prendre l'interaction, le comportement, le contact comme sujet d'expérimentation et de faire du corps un dispositif neutre, le plus neutre possible. On pourrait dire que la physique des corps devient à la fois une proposition esthétique et un outil politique, puisque ce sont des groupes qui sont regroupés. Ils se regroupent aussi, ils réagissent au champ chorégraphique de l'époque, et notamment à cette espèce de relation de pouvoir plus ou moins implicite entre le chorégraphe et les interprètes, entre les formes de danse de ballet où l'homme bien musclé va porter la danseuse diaphane et légère jusque dans les airs, etc. Donc leur idée, ça va être de porter un idéal démocratique à tous les étages de leur groupe, tant dans l'organisation, leur vie collective, en tant que collectif, au niveau humain et au niveau esthétique dans les pièces qu'ils proposent, et d'aller questionner les rapports de pouvoir, d'autorité, tout ce qui se joue à ce moment-là aussi En termes les autres influences que je vais juste nommer parce que je vois que le temps file, pour ceux qui connaissent un peu le monde de la danse, ce sont des gens qui sont plus ou moins tous passés par un atelier qui était les ateliers de quelqu'un qu'on redécouvre aujourd'hui depuis 5-6 ans, qui était Anna Alprin et qui était sur la côte ouest, et notamment avec chez elle l'importance du rituel, quelque chose qui sera très présent aussi à New York après, mais l'espèce de jouer sur les frontières entre l'art et la vie, d'étirer tout ce qui pourrait faire frontière entre l'art et la vie. Voilà. Et à New York, il y a un atelier qui va être très important, qui est l'atelier de Robert Ellis Dunn, qui se passe dans les studios de Cunningham, où tous ces gens-là vont se rencontrer et vont travailler ensemble des processus de composition. Bon, Steve Paxton, qui fait partie du Grand Union, ça se passe pas complètement comme il a envie que ça se passe. C'est quand même assez compliqué en fait de porter ses idéaux démocratiques jusqu'au bout, d'être conséquent et voilà. Et tout à coup, il découvre donc la composition dans ce studio là de Robert Ellis Dunn, et il se dit, ben, l'improvisation, peut-être que c'est la manière de traduire dans les corps, dans les processus de composition, toutes ces espèces d'exigences de démocratie et de liberté, d'égalité, d'anti-autoritarisme et tout. Et il se met à penser à une forme qui serait influencée autant par la danse que par l'aïkido, que par des danses un peu sociales comme le rock, que par la lutte, que par le sport, que par tout un ensemble de choses. Une forme, une pratique, une forme qui mettrait en son cœur quelque chose comme le décentrement. Décentrement, on pourrait dire aussi déhiérarchisation de l'organisation du corps et de l'organisation du mouvement. Donc, je vais pas plus loin parce que ce sera assez clair. Juste pour vous donner une idée c'est un livre donc sur Philip Glass, qui est un compositeur minimaliste de cette époque-là, et qui raconte donc avoir assisté à des performances du Grand Union. Et voilà ce qu'il dit. Ces danseurs prenaient des mouvements ordinaires, des mouvements de la vie quotidienne, et en faisaient de la danse. Ces mouvements n'avaient pas été inventés pour des corps de danseurs, ni même pour des familiers de la technique, mais pour des corps qui marchaient, couraient ou sautaient, tout simplement. En représentation, ils portaient plus souvent des jeans que des tenues de danse. Ils ne portaient pas non plus de chaussons de danse, mais des tennis, et parfois ils étaient pieds nus. Je me souviens d'une pièce, les danseurs montaient à l'échelle, plongeaient sur les matelas, et il arrivait ce qu'il arrivait. Ils laissaient leur corps réagir librement à la gravité, à la chute, à la matérialité des matelas. On avait l'impression d'assister à une étude sur le mouvement du corps humain. Ces notions-là de laisser le corps réagir à la gravité, à la chute et à la matérialité des matelas, c'est quelque chose qui va être... alors, pas les matelas, mais gravité, chute et la matière, c'est quelque chose qui va être au cœur de cette recherche du contact. Donc le contact improvisation, ça naît en s'inscrivant dans le champ artistique et même dans une espèce d'avant-garde de l'époque. Les premières formes de contact improvisation sont des formes performatives dans des universités et des galeries d'art, comme ça se fait beaucoup à l'époque à New York. Et on va en voir un petit extrait tout de suite. Ce qui va être mis à l'exploration, c'est au départ, il y a une performance qui s'appelle Magnesium, que Steve Paxton propose à des gymnastes, et il leur propose de travailler sur la collision et la chute. Et c'est le point de départ du contact improvisation. Ça s'appelle, on ne nomme pas encore contact improvisation, mais ce sera le point de départ. Et ensuite, il y a un ensemble de petites performances là sur. Ça, c'est à l'hiver 72, et au printemps 72, et puis ensuite au printemps 73. Il y a des petites tournées qui vont se faire dans différents lieux, puis ensuite à la côte ouest. Et ils font des cartons d'invitation, et dessus c'est marqué You come and we show you what we do. Et les gens arrivent dans des espaces un peu comme ici, dans des lofts new-yorkais ou dans des galeries. Les gens s'assiedent sur les côtés, les danseurs sont déjà là, en survêtement. Et puis il y a deux personnes qui rentrent et qui font quelque chose. C'est assez drôle d'aller lire les premières critiques qui ont été écrites sur ces formes-là, parce qu'il y a quelque chose qui revient à peu près systématiquement, c'est on ne savait pas trop si on assistait à de la lutte, un acte sexuel, de la danse, un art martial mystico-obscur. Donc il y a quelque chose de très indéterminé, parce que qui est très expérimental encore quand il se montre à ce moment-là. Le contact improvisation arrive en France en 1978 par le biais d'un événement annuel qui s'appelle les fêtes musicales de la Sainte-Baume en Provence, et qui est un endroit et un lieu hyper important qui n'est pas très documenté d'ailleurs, mais parce que c'est un lieu à la base plutôt musical où vont défiler toutes les grandes figures de cette avant-garde là. Merce Cunningham, John Cage, tous les minimalistes, et puis tous les danseurs, donc le postmodern dance. Et en 78, Steve Paxton est invité pour donner un stage. Et là, il y a quelques personnes comme Didier Siol, Suzanne Coteau, Mark Tompkins, Alain Montebrand, qui vont être un peu le noyau de la naissance du contact improvisation en France, qui s'éteindra un petit peu au début des années 90 et qui repartira à partir de la fin des années 90 à Paris, puis à plein d'endroits en France. Et aujourd'hui, ça essaime de partout. Quoi. C'est une pratique qui essaime pour plein de raisons. Je propose qu'on regarde un petit peu. Je vais vous montrer 5 minutes d'un truc qui s'appelle Fall After Newton, et qui est une des premières vidéos qui a été faite sur le contact improvisation par Steve Paxton lui-même. C'est des images d'archives, vous verrez. Je ne sais pas si on va très bien entendre les commentaires, mais je vais renverser le monde. C'est pas celui-là. Ah, c'est pas normal.
When an apple fell on his head, Isaac Newton was inspired to describe his three laws of motion. These became the foundation of our ideas about physics. Being essentially objective, Newton ignored what it feels like to be the apple. When we get our mass in motion, we rise above the constant call of gravity toward the swinging, circling invitation of centrifugal force. Dancers ride and play these forces.
Juste un mot pour dire que ce qu'on fera demain, ça n'a pas grand-chose à voir avec ça, juste pour vous rassurer. Et que je le dis aussi parce que ça reflète quelque chose de l'évolution de la pratique en question, qui a commencé comme vraiment un jeu physique, d'expérimentation physique. Les corps sont sculptés là quand même, c'est des gymnastes, c'est... donc expérimentation physique sur les lois du mouvement, avec, vous voyez, beaucoup un jeu sur, aussi sur le... La force centrifuge sur, et ça s'est peu à peu transformé en une pratique qui est beaucoup plus orientée sur les sens, sur le, et donc d'ailleurs qui fait l'objet de pas mal de moqueries. En anglais on dit touchy-feely quand on se fait du bien, on se roule dessus, et c'est parfois l'image qui est renvoyée au contact improvisation aujourd'hui. C'est si vous tapez contact jam, contact improvisation, le contact improvisation se pratique dans des ateliers, etc., mais surtout dans des jams, qui sont des temps de pratique libre, vous verrez qu'aujourd'hui, c'est, de dehors, on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, que les gens ne savent pas trop ce qu'ils font, d'ailleurs, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec le côté acrobatique qui est là, qui peut encore exister, mais qui n'est pas du tout au centre. Mais juste pour vous dire que demain, ce n'est pas ça qui sera en jeu. Bon, il y aurait plein de choses à dire sur ce qu'on a vu. Juste, peut-être si certains d'entre vous ne comprennent pas bien l'anglais ou si on n'entendait pas bien, juste revenir sur ce qu'il dit tout au début, parce que et c'est pour ça que ça s'appelle Fall After Newton. Steve Paxton dit, quand Isaac Newton s'est pris sa pomme là, sur la tête, boum, il nous a pondu toutes les lois du mouvement, mais il est passé à côté d'une expérience, c'était de se dire ou de vivre qu'est-ce que ça fait que d'être cette pomme qui tombe. Et ce qu'il explique au début, c'est notre champ d'expérimentation, c'était toutes ces forces physiques, la gravité, l'inertie, le momentum, la friction, etc. Donc, toutes les forces physiques de masse en mouvement. Mais on s'aperçoit aussi que dans la chute, et c'est pour ça qu'il passe leur temps à se jeter dessus, à chuter, en fait, il n'y a pas une seule réaction. Il y a toute une palette, et on peut mettre en culture des manières de gérer ce qui se passe au moment où on s'est rentré dedans, en l'air ou à haute vitesse, et au moment où on va aller retrouver le sol. Et que dans cette palette-là, gît tout un ensemble de possibles pour de l'improvisation, et c'est de là que part le contact improvisation. C'est une pratique qui, contrairement à beaucoup de pratiques corporelles, a refusé de se... Il n'y a pas de copyright. La plupart des pratiques américaines de cette époque ont toutes copyrightées, il faut payer 5 000, je suis gentil, beaucoup plus que ça, les formations pour pouvoir dire praticien de telle et telle pratique en mettant un petit C, en payant de l'argent. Eux, ils n'ont pas fait ça. Les contacteurs disent que c'est une pratique qui a refusé aussi de se définir, donc il n'y a pas véritablement de définition. En fait, je crois qu'il y a surtout une multiplication de définitions, ils n'ont jamais arrêté d'en produire. Juste pour vous donner un exemple, je vais vous donner 3 citations. Une de Nancy Stark-Smith, donc qu'on a vu danser. Une de Steve Paxton, je ne vais pas donner la définition, mais je vais insister, je vais donner une formule. Et puis la troisième de quelqu'un qui importe pour moi et qui a influencé en partie là, ce que je vous raconte ce soir, notamment sur l'espèce d'introduction à travers le capitalisme, c'est Keith Hennessy. Et qui porte vraiment la question de, lui il appelle même carrément ça le post-contact improvisation, il vient de mettre des postes un peu partout, mais qui s'interroge sur en quoi cette pratique là elle peut faire support justement pour tout un ensemble de réflexions qu'on peut trouver dans des groupes d'activistes ou des groupes en situation de minorité, pour tout un ensemble d'enjeux politiques. Alors la citation de Nancy Stark-Smith: le contact improvisation, c'est une forme de danse en duo basée sur le dialogue du poids, de l'équilibre des réflexes est des impulsions entre deux corps en mouvement, physiquement en contact l'un avec l'autre. Voilà. Dialogue du poids, l'équilibre, réflexe. Il y a cette notion du contact, hein. le principe clé du contact improvisation, et je terminerai là-dessus. Est-ce que ça va si... Pardon. Est-ce que ça va si je prends encore 10 minutes, ou est-ce que vous êtes congelé fini ?
Non, ça va.
Non ? Ok. Oui, donc le principe, c'est, on pourrait dire, le point de départ, c'est deux personnes qui se donnent un peu du poids l'un contre l'autre. Et qui viennent créer une zone à un endroit, donc leurs deux corps se rencontrent à un endroit, mais en acceptant, c'est pas juste je viens te toucher, c'est je viens te donner ma masse dans un déséquilibre, je viens te donner mon centre, je viens te donner ma masse, et si on s'abandonne l'un contre l'autre, que ce soit debout, au sol, qu'est-ce qui se passe, et si du coup on se laisse improviser à partir de là, qu'est-ce qui se passe. Steve Paxton, il a donné plein de définitions, mais il y en a une dans laquelle il insiste plus à la fois sur un... Il dit que c'est à la fois quelque chose où on reste sur un toucher très physique, sur la matérialité des corps, l'aspect physique du mouvement, et en même temps, il présente le contact improvisation comme une méditation sur les lois physiques du mouvement. Méditation parce que... Il dit aussi un mode de communication basique entre les réflexes des personnes qui bougent ensemble en contact. Donc un mode de communication entre des réflexes. Donc on se situe plus au niveau des volontés, des intentions, c'est comment est-ce que, en situation quasiment de survie, quand on tourne à vive allure et qu'on vous lâche, comment est-ce que les réflexes d'adaptation du corps pour aller retrouver le sol sans se faire mal peuvent s'ajuster aux réflexes d'adaptation de la chute de mon partenaire, etc. Et puis, donc, dernière citation, enfin, proposition de définition de Kissenessy, il fait ça, il dit « Le contact improvisation, ça pourrait être une proposition, et entre parenthèses, il se demande, utopique, de relations sociales démocratiques réduites à leur plus simple forme, la rencontre improvisée entre deux personnes. Et deux choses. La première que je voulais mentionner, c'est ce qu'écrit un critique après avoir vu une des premières performances de contact improvisation. Il dit « No matter how close, there was always space in between. » Peu importe la proximité, il y avait toujours de l'espace entre les partenaires. No matter how far, there was always a connection. Peu importe la distance, il y avait toujours une connexion. Et ça, je trouve que cette citation est assez... Enfin, d'avoir vu ça tout de suite et de l'avoir formulé comme ça, c'est assez remarquable. Et ça nous apprend une chose, qui est que entre la fusion et la séparation, eh bien, il y a tout un ensemble de possibles et de champs à explorer. Et dans quelle situation de la vie courante, quotidienne, est-ce qu'on se met en expérimentation sur l'espèce d'étendue, le continuum qu'il y a entre ces deux figures-là qui sont la séparation, l'insularité des consciences et la fusion qui va être tout ce qu'on va rapporter, je ne sais pas, aux relations amoureuses ou aux relations... Enfin, tout. Voilà. Et j'avais dit deux choses, je crois, mais je ne sais plus quelle est la seconde. Je termine par en essayant de développer un point de vue qui serait peut-être un peu plus à la fois technique et puis peut-être un peu plus théorique sur le contact improvisation et comment est-ce que je boucle avec ce que je vous ai raconté au début. Parce que j'aimerais vous présenter ce qui fait vraiment la spécificité du contact improvisation et qui est donc ce point de contact. Un principe de composition instantanée entre deux personnes à partir de ce point de contact entre deux corps de masse, et ce point de contact il l'appelle le rolling point. Et donc j'aimerais pour finir vous parler du rolling point, parce que même philosophiquement le rolling point c'est quelque chose d'assez étrange. C'est C'est une espèce d'entité qui ne préexiste pas à la danse, puisqu'elle existe qu'à condition qu'on s'abandonne l'un contre l'autre. Et pourtant, toute la pratique consiste à faire en sorte que ce soit ce point-là qui se mette à guider la danse. Donc c'est comme si on faisait exister une portion d'espace, un endroit du monde qui n'existe pas, mais qui, si on abandonne du point l'un à l'autre, il se met à exister. Et tout l'enjeu ou la visée de la pratique, ça va être de rechercher ce moment où le point de contact commence à se comporter comme une entité autonome. Donc à se laisser déborder par ce qui arrive au point de contact. Je fais ça, mais ça peut être ça, ça peut être... Enfin, vous avez compris qu'il peut être partout ce point de contact. Steve Paxton dit que l'idée, c'est de chercher à ce que ce point de contact, ce rolling point, se transforme en un troisième partenaire. Et qu'est-ce qu'un partenaire de danse ? C'est quelqu'un avec qui l'on danse, et c'est aussi quelqu'un qui nous fait danser. Donc, il s'agit de s'engager dans une relation à deux. Alors, ça peut être à plus que deux, mais privilégions là la relation à deux, qui était la forme aussi originale. Donc, de s'engager dans une relation à deux, improvisée, où on se laisse être dansé par le rolling point, par ce... Donc, on ne se situe plus au niveau des intentions. Je veux faire tel geste, ou j'ai la volonté de faire tel geste. On n'est pas non plus dans... allez, moi, je fais ça, puis après, c'est à toi, je te laisse l'initiative, puis après, je reprends. On va essayer le plus possible de jouer la carte de l'indétermination de ce qui nous met en mouvement. Je dirais indétermination, et aussi de multiplier le plus possible les entités ou les forces qui rentrent en jeu et qui nous mettent en mouvement et qui nous débordent dans notre mise en mouvement. On aurait pu prendre un des passages là et d'ailleurs on pourrait éventuellement jouer à ça demain, on verra, mais un des passages qu'on a vu d'un des duos, on pourrait le décrire comme on regarde comment un des danseurs fait bouger l'autre danseur et on serait content, puis on dit attendez, non, on recommence. Je vais plutôt décrire à l'inverse. Il me semble qu'en fait, c'est plutôt l'autre danseur qui fait bouger à ce moment-là, qui induit le mouvement. Et on se rendait compte qu'on ne peut jamais décider qui fait quoi et qu'on essaye d'habiter ce moment, on se laisse dépasser et déborder par l'action. Et donc, on le fait en étant relié par une même sensation. Et on délègue beaucoup à cette sensation. Par cet anti-là. Je vais avoir l'air un peu bête si je le fais tout seul, mais vous pouvez essayer. Je dirais que peut-être ce à quoi ressemble plus le point de contact, c'est à ce qui se passe quand on ne fait pas le point sur nos doigts, là, qu'on regarde un peu derrière et qu'on vient coller. Donc j'ai vraiment l'air bête parce que je suis le seul à le faire. Le petit boudin, ouais. Ben, ce boudin, on a vraiment l'impression qu'il est là. En même temps, si les doigts décollent, il n'est pas là. Et il se passe quelque chose. Ben, on peut imaginer que c'est ça le rolling point. C'est un endroit du monde qui existe, qui est tangible et qui pourtant est complètement immanent à la vie et qui a des qualités et qui a des... C'est concluant le boudin, tout ça. Bon, alors et donc vous voyez que je reviens à cette citation que j'avais donnée sur la entre deux personnes qui auraient la même douleur identique, il y aura toujours au moins une différence de propriétaire. Déjà, je trouve étrange de parler de propriété, d'être dans une logique de propriété. Je crois qu'on n'est même pas dans une logique de propriété partagée, c'est-à-dire de copropriété. Ça n'a aucun sens d'être dans un rapport de propriété. À la limite, on est dans un rapport de possession. Et le rapport de possession, il est presque inversé, puisque les contacteurs cherchent à se laisser posséder par ce troisième partenaire, par ce point de contact, et à se laisser dessaisir par ça. Et si vraiment fallait trouver une métaphore ou une image, ce ne serait pas celle de la propriété, de la copropriété, mais ce serait alors plutôt celle de la cohabitation. On cohabite dans cette région de l'espace qui est la région qu'on s'abandonne l'un à l'autre. On cohabite, on mutualise. Bon. Et du coup, c'est là Et c'est pour ça, le titre que j'avais donné, je n'ai pas été très explicite, « La sensation est politique ». Il y a plein de raisons pour nommer ça comme ça. Bon, ça fait écho à « Le personnel est politique », ce slogan féministe de ces années-là, d'ailleurs. Mais c'est aussi parce que ce rolling point, ce point de contact, c'est un endroit où s'expérimentent beaucoup de choses de la relation à l'autre, et donc il y a des enjeux politiques très forts, mais potentiellement c'est aussi des endroits où se condensent toutes les pires habitudes, c'est le lieu où se condensent des oppressions, mais des micro-oppressions, des micro-impolitesses, des micro-maladresses, mais la maladresse c'est encore pas très grave, et des micro-formes de domination. C'est un endroit où potentiellement peuvent se jouer tout ce qui se joue à des échelles beaucoup plus macro. Enfin, c'est un truc un peu central dans les mouvements féministes, qui est de dire que les oppressions à l'échelle macro-sociale, non, les oppressions qui se vivent et qui se produisent à l'échelle micro-sociale reflètent les oppressions qui... Donc, il ne faut pas du tout penser... Si c'est un endroit d'expérimentation, c'est parce qu'a priori, si on ne fait pas gaffe, quand on va se mettre en contact avec quelqu'un par là, on va être tout à fait prêt à reproduire à peu près exactement tous les travers qu'on produit ailleurs, vis-à-vis des autres. Donc la question aussi, je dis ça, c'est parce qu'il me semble qu'il y a quelque chose là de proprement politique et qui a à voir avec la question des communs, qui est, est-ce que l'on est capable d'habiter ensemble cette région de l'espace ? Qui n'existe pas quand on ne s'abandonne pas l'un à l'autre. Est-ce qu'on est capable de l'habiter ensemble ? Est-ce qu'on est capable de l'habiter sans que l'un ne prenne trop de place ? Donc, c'est des questions qu'on trouve dans toute forme de relation, qu'elle soit familiale, amoureuse, ou les amitiés. Est-ce que tu ne prends pas trop de place, hein ? Est-ce que tu ne me donnes pas trop de poids ? Est-ce qu'on est capable d'habiter ensemble cette région sans que l'autre se sente à l'étroit ? Est-ce qu'on est capable d'habiter cet espace et que l'on s'y sente écouté ou qu'on s'y sente pris en considération ? C'est-à-dire que ça se transforme pas, que la danse ne se transforme pas en une espèce d'acte de piraterie où il y en a un qui viendrait et qui se vautrait dans son plaisir et puis l'autre et qui subirait et qui saurait pas comment dire non, Oui, parce que j'ai pas précisé ça, mais c'est une danse qui se pratique souvent sans musique. Il n'y a pas de forme, de pas, de chorégraphie. Et du coup, ben, il n'y a rien qui règle comment on rentre dans la danse et surtout comment on la finit. Donc quand on est en train de subir un duo, quelqu'un qui prend trop de place ou qui se vautre dans son propre plaisir sans égard pour le mien ou pour ce qui est en train de... Quand on n'est pas au clair sur ce qu'il en est, ce qui est, eh ben, comment est-ce qu'on s'y prend pour arrêter, mettre fin ? Donc vous voyez, c'est tout un ensemble de questions qui, à l'échelle micro du point de contact, posent des questions micro-politiques. Toute une micro-politique qui se joue à cet endroit-là. Et je vais terminer par ça. Ce qui m'a beaucoup intéressé donc, dans mon travail de thèse, c'était de voir comment est-ce que les contacteurs s'engageaient dans toute une culture des sens intérieurs, c'est-à-dire déployaient une attention à leurs sensations, apprenaient à intensifier les sensations, déployaient des aptitudes aussi attentionnelles. Non, j'hésite à déplier des boîtes, mais j'ai l'impression qu'il faut que je ne les déplie pas, celles-là. Peut-être que j'en parlerai demain. Mais c'est les aptitudes attentionnelles, c'est quelque chose qui me porte beaucoup en ce moment. Voilà, c'est pour ça. Et comment est-ce qu'ils s'entraînent à force à faire du rolling point ou du point de contact à la fois le lieu et le moyen d'une attention conjointe, d'une attention partagée. Et donc, le rolling point, ça va être l'endroit où on va apprendre à aller sentir des qualités qui vont venir nous dire de là où on en est de la relation à l'autre. Et ça, des endroits à des niveaux très différents. Ça peut être dans des situations acrobatiques, on va aller s'entraîner à sentir de la sécurité, puisque au point de contact avec l'autre, je peux apprendre à aller sentir où se trouve le sol et donc savoir si je suis en sécurité, si l'autre est sur ses appuis, s'il est stable, s'il faut que je me prépare, s'il faut que je sois vigilant. Je peux aller sentir si l'autre il est à peu près à l'aise, s'il a l'air d'être complètement affolé. Et puis, bon, les contacteurs les plus expérimentés ont l'air d'aller sentir des choses complètement folles qui relèvent beaucoup moins de choses matérielles et physiques que presque de l'ordre du sentiment dans ce point de contact-là. Mais du coup, ce point de contact, ça devient un lieu où se formulent des hypothèses sur ce qu'il est en train de se passer, sur ce qu'il en est, ce qui est entre nous. C'est un lieu où on va aller fouiller des indices sur où l'autre il en est, mais où j'en suis moi-même aussi. Est-ce que je suis toujours OK, est-ce que... Et avec toujours, puisqu'on est en improvisation, comment est-ce qu'on négocie quelque chose qui est de l'ordre finalement d'un consentement, on consent à danser ensemble sans parole, simplement par cette technique-là et cette manière-là. Et ce qui, d'un point de vue là, quasiment. Bon, moi je considère que les contacteurs et puis les praticiens somatiques sont des somatonautes. C'est-à-dire que c'est des gens qui apprennent à les voir, qui partent en exploration et qui cultivent des manières de partir en exploration, mais l'exploration comme à l'ancienne, avec la caravelle, etc., ou avec les fusées pour aller voyager dans d'autres étoiles, dans d'autres systèmes solaires. Ils vont voyager dans leur corps et ils essayent d'en revenir avec des nouvelles aptitudes et, sensorielles et puis éventuellement relationnelles et compagnie. Et avec de l'entraînement, à force, le point de contact se met à exister selon une modalité qui n'est plus... Donc c'est une sensation, et c'est une sensation qu'on va dire commune. On pourrait le dire avec les mots de Michel de Certeau, c'est une sensation au pluriel. Il y a une sensation, mais il y a deux personnes qui... La meilleure manière, ce serait de... Si vous prenez un... une page... C'est ça que n'a pas envisagé le... Si deux personnes ont une même souffrance, une même sensation, il y aura toujours une différence de propriété. Mais si je perce un seul trou... comme ça, il y a eu certes une seule affection, il y a eu une seule sensation, mais il y a deux trous. Donc ça veut dire qu'on est dans le registre d'un commun qui... Il y a un commun au point de contact et qui n'empêche pas qu'il y ait des parts qui soient des parts propres à chacun, puisqu'on ne pourra jamais savoir ce que l'autre vit véritablement, mais n'empêche qu'on a déployé un espace physique et tangible de négociation. Et cet espace physique et tangible de négociation, puisqu'il s'agit d'aller investir avec l'attention, avec les sensations, il va être à la fois en surface, mais on développe aussi des formes de sensibilité à des tissus qui sont plus en profondeur. Et donc il va être aussi à la fois intérieur et non plus privé, comme ce que je rapportais du mode d'existence de notre expérience intérieure tout à l'heure. Il va être à la fois intérieur et public. Et ce qui m'intéresse, moi, dans le Rolling Point, c'est que les contacteurs le font exister. Ils font exister un endroit du monde selon un mode d'existence qui n'existe nulle part dans notre métaphysique, à savoir comme un lieu qui sera à la fois intérieur et public. C'est-à-dire littéralement un site de rencontre en soi, mais qui existe que parce que j'ai contacté. Eh bien, je termine juste en lisant une citation, si ça vous va. C'est la citation de quelqu'un qui s'appelle Robert Tuner et qui fait cette proposition qu'on jugera utopique, qui est « Improve our capacity to be ourselves in relation to other as a technique. » D'améliorer notre capacité d'être nous-mêmes en relation à l'autre, et que ça, ce soit une technique. C'était nul comme conclusion. mais c'est comme ça. Voilà, je crois que je m'arrête là. Merci.